Zanzibar à Limoilou, de Bamako à Lévis. Ushuaïa à Québec, de Tokyo à New York.
No country alone can solve this challenge.
On peut avoir des objectifs radicaux parce que la situation exige qu'on soit radical.
Du 191 rue Saint-Paul à Québec, à nous la terre.
Bon mardi tout le monde. Alors cette semaine à l'émission, on va parler d'héritage colonial, de décolonisation et d'alliance révolutionnaire avec Dali Giroux, professeur à l'Université d'Ottawa, philosophe et auteur. Vous écoutez À nous la terre. La quête d'émancipation du Québec moderne, marquée par la Révolution tranquille, l'érection des grandes infrastructures hydroélectriques, l'exploitation des territoires au nord du 49e parallèle et, plus récemment, le projet de loi 21 pour la laïcité de l'État québécois, véhicule l'idée force du maître chez nous. Dans ce contexte, le Québec rêve d'un État souverain, en pleine possession de son territoire et affranchi de l'empire colonial britannique. Le maître chez nous évoque à la fois un territoire national, le chez nous, et le passage affirmé de manière triomphante d'un état de servitude à un état de maîtrise. C'est la volonté de passer d'un Québec soumis à l'oppressante emprise britannique à un Québec retrouvant sa pleine liberté, héritée de droits lors de la colonisation française. Mais cette version triomphante de l'histoire, selon laquelle le Québécois dit de souche, pourrait simplement reprendre ses droits sur un territoire duquel il a été dépossédé, efface à la fois la réalité constituante de la population coloniale de la Nouvelle-France, c'est-à-dire une population d'indésirables et de subalternes ayant comme point commun la dépossession, et les réalités territoriales autochtones. Alors qu'en est-il réellement de ces aspirations identitaires poursuivies à ce jour tant par les nationalistes que par les souverainistes? Le maître chez nous québécois n'est-il pas finalement qu'une reproduction de l'appareil colonial, une volonté d'affirmer haut et fort le statut de colonisateur du Québec au sein du Nouveau Monde, une continuité des rapports de domination et d'exploitation que préserve et maintient le système colonial? Et qu'en est-il alors dans ce contexte des réalités autochtones? On comprend à la lecture du livre « L'œil du maître » dont nous parlerons aujourd'hui avec Dali Giroux que l'imaginaire décolonial du nationalisme québécois est colonisé par son héritage colonial. Comment, alors, décoloniser l'imaginaire colonial? Comment aborder la question des territoires sans reproduire les structures de domination de l'État colonial? Comment forger des alliances dans une expérimentation du lieu, ici, maintenant, n'importe où, hors des dispositifs de valorisation et d'accumulation que reproduit l'appareil étatique? Ce sont là quelques questions que nous tâcherons d'explorer aujourd'hui avec Dali Giroux.
Merci Dali d'avoir accepté notre invitation.
Dali,
t'enseignes la théorie politique à l'Institut d'études féministes de genre et à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa depuis 2003. Ton travail de recherche propose une théorie et un plan d'expérimentation antidisciplinaire des formes d'articulation entre l'espace, le langage et le pouvoir dans l'Amérique contemporaine. Tu as publié quelques ouvrages dont « Généalogie du déracinement », une enquête sur l'habitation postcoloniale, « Parlant d'Amérique » et « L'œil du maître », sorti en 2019 aux éditions « Mémoire d'Encrier », qui t'a valu la semaine dernière le lauréat du prix Victor Barbeau 2021, décerné par l'Académie des lettres du Québec. Félicitations pour ta reconnaissance et merci d'avoir accepté de prendre du temps pour en parler avec nous. Donc pour commencer, dans ton livre « L'œil du maître », tu t'intéresses à l'idée du maître chez nous, qui a été utilisée par le Parti libéral de Jean Lesage pour remporter les élections de 1962. Ces élections-là avaient été déclenchées de manière précipitée pour gagner un mandat majoritaire pour pouvoir nationaliser les compagnies hydroélectriques. Si je comprends bien, le titre de ton livre désigne l'objet de ta recherche, c'est-à-dire comprendre ce qui se passe dans l'œil du maître au moment où il se proclame maître chez lui.
Oui, merci de me lancer sur cette piste-là. L'objet de ma recherche, je dirais, Je le cadrerai un petit peu autrement. C'est une généalogie, dans le fond, là, très librement entreprise, là, de la notion de maîtrise. Dans cette expression maître chez nous, c'est une généalogie, c'est-à-dire qui l'a défini, quand, dans quel rapport de pouvoir, puis quelles ont été les réappropriations successives de cette expression-là. Donc, maître chez nous, je pourrais pas dire que c'est une origine, là. Je parle pas de l'origine, il n'y a pas d'origine, mais il y a de la répétition en tout cas. C'est-à-dire que cette idée de maîtrise-là, elle se répète dans l'histoire récente et plus ancienne. Et l'enquête, elle porte dans le fond sur les apparitions de cette notion-là, puis les significations qu'elle va prendre. Et je la prends par le milieu, si on veut. Est intéressante l'expression de maître chez nous parce qu'elle rallie toute la pensée politique québécoise héritée du mouvement des patriotes, mais au sens très large où elle transcende les lignes de parti. Tu l'as dit dans ta question, c'est Jean Lesage qui l'a popularisé en 1962, mais l'expression elle est utilisée avant lui par Maurice Duplessis, si je ne me trompe pas, alors qu'il se trouve à Schefferville. Schefferville et la réserve de Matimekosh-Lac-Jean, où a opéré la Aéronord en territoire Innu. C'est l'histoire que nous raconte Anne Capèche dans « Je suis une maudite sauvagesse ». C'est là où Duplessis est mort, d'ailleurs, en 1959. Et ça représente le Québec industriel par excellence, puis le front contemporain de colonisation dont il est question dans ce maître chez nous-là. La première citation en exergue dans mon livre, c'est celle de Hamelin qui dit « Aller crier maître chez nous en plein territoire montagnais, c'est absolument écœurant. » Et je pense que c'est de Duplessis qui parle à ce moment-là. Mais donc, c'est Duplessis, c'est le sage, c'est René Lévesque, c'est Robert Bourassa, c'est Jean Charest aussi. C'est vraiment... Ce Québec moderne industriel qui va s'approprier le Nord, qui a une incarnation dans cette expression-là. Et donc, partir de cette figure du maître, maître chez nous, c'est entrer dans le vif de l'histoire du territoire, là, de ce territoire qui est capturé, hein, dans les frontières de la province de Québec, qui est une histoire impériale, puis qui est une histoire impérialement subie, mais aussi impérialement agie, puis qui est très complexe.
Et on peut dire que ce rapport chez nous est assez ambigu parce que justement, c'est précisément en se faisant maître du territoire, en fait, parce que le Québec de la Révolution tranquille s'est cru maître du Nord, qu'il s'y sent, qu'on s'y sent par exemple chez nous ou qu'il s'y sent chez eux.
Ben, je dirais que c'est plus ambigu, là. C'est plus clair qu'ambigu, c'est-à-dire que. Dans la maîtrise du Nord, puis des ressources naturelles nordiques, des grands barrages jusqu'au plan Nord de Jean Charest, de quoi il s'agissait, c'était d'assurer la maîtrise du territoire de la province de Québec face au gouvernement fédéral. Et donc, c'était une affirmation de souveraineté étatique, on va dire, dans le cadre d'une guerre de juridiction, là. Et cette guerre de juridiction Ottawa-Québec, elle a sa logique, elle a son histoire, elle a sa dimension politique positive, si l'on veut, parce que... puis elle tient dans le fait que dans cette guerre de juridiction, le fédéral tient lieu à juste raison, là, d'héritier de la couronne britannique puis de l'entreprise impériale en Amérique du Nord. Mais ce qu'on manque souvent de souligner quand on parle du Québec à travers ce prisme-là puis cette guerre de juridiction, c'est que le Québec, la province de Québec, comme État domestique au sein du Canada, il utilise les outils juridictionnels qui lui sont rendus possibles par la Constitution canadienne. Donc, c'est une entité qui découle également du droit britannique et qui est héritée de l'impérialisme. On ne les a pas démantelés, ces structures-là, disons-les, honteux juridiques, on les fait fonctionner. Et donc, cette ambiguïté, donc, c'est de dire effectivement, on essaie de s'émanciper de l'Empire en utilisant, non seulement en utilisant les outils de l'Empire, mais en faisant fonctionner l'Empire à notre profit, finalement. Et ça, c'est quelque chose de très factuel, si on veut. Mais qui est souvent occulté au profit d'une lutte très romantique là, d'une nation opprimée francophone dans le Canada. C'est pas une histoire fausse, mais c'est une histoire qui manque d'une certaine complexité, qui manque d'une certaine géographie, qui manque d'un certain recul par rapport au cadre juridique dans lequel on se trouve, ou en tout cas, si elle manque pas de recul, elle trahit une aspiration qui nous apparaît manifeste aujourd'hui avec la crispation identitaire du nationalisme québécois, c'est-à-dire qu'il s'agit d'affirmer cette maîtrise-là du territoire nordique à l'époque sur le dos des populations existantes, qui avaient de toute façon, d'aucune façon, cédé leurs terres par le biais des traités, et même pas ces traités frauduleux, là, appelés les traités numérotés que le fédéral a signés dans l'Ouest, là, de l'Ontario jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Et donc, cette affirmation-là, elle s'est faite dans ce... Est-ce que c'est une ambiguïté ou c'est une faille, si on veut, ou en tout cas quelque chose qu'on assumerait, c'est-à-dire la position du maître avec tout ce qui vient avec l'inféodation des populations qui habitent le territoire, qui sont déjà là, qui sont les populations autochtones, jusque dans l'article. Et donc, Québec a remplacé le fédéral comme maître colonial dans le Nord. Il n'a pas démantelé le régime impérial. Et donc, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que il faut ajouter cette dimension-là à l'histoire du Québec. Puis quand on parle du... Quand on le raconte à partir du récit de la souveraineté, ben, il manque toute la question impériale, à mon avis.
Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est un peu un autre dispositif impérial qu'on voit à être réapproprié par l'État québécois à travers le changement, disons, peut-être de texture ou de thème au slogan « Maître chez nous » qui s'entend aujourd'hui beaucoup comme un slogan identitaire, comme tu le disais, un slogan assimilationniste qui était déjà un dispositif de l'Empire britannique, mais qui est un dispositif, on dirait que les gouvernants québécois se plaisent à reprendre pour le leur. Pour toi, est-ce que ça découle de cette logique-là de se dire maître, de vouloir assimiler les autres populations, ou est-ce que c'est un glissement qui s'est opéré sur ce thème-là?
C'est une bonne question. Puis c'est une des questions que j'ai portées dans ce travail-là. Moi, je ne dirais pas que c'est une dérive ou une déviation, parce qu'il y a une forme de continuité là, dans le passage à une affirmation étatique économique nationale, si on veut, qui était propre à la logique des indépendances modernes. Hein. C'était pas particulièrement original, c'était juste un peu en retard. Et ça avait son sens là, dans le contexte mondial de l'époque, disons. C'est-à-dire quoi? Un État-nation qui maîtrise ses ressources naturelles, qui développe son pouvoir économique localement, entre guillemets, mais disons sur sa juridiction, qui produit son propre patronat, hein, le rêve parisien des millionnaires francophones, puis qui entre guillemets, publicitaire, là, façonne le territoire à son image, c'est-à-dire qui développe un régime de subjectivité caractéristique, sa culture, son identité. C'était le modèle même de la modernité politique, dans le fond, qui s'incarnait là-dedans. Puis ça constitue, dans le fond, une forme d'autonomisation des régions, des empires européens, en même temps, comme je le disais, qu'une continuation de l'impérialisme au nom des nations qui se construisaient, dans le fond, comme des sujets politiques d'émancipation. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est la façon par laquelle elle s'est poursuivie, l'entreprise coloniale. C'est-à-dire que le capital colonial, on l'a pas remis dans une boîte, puis c'était fini le colonialisme. C'est-à-dire que si on définit l'entreprise impériale comme une mise en disponibilité générale de l'ensemble du vivant pour le capital, les indépendances nationales, c'est-à-dire la maîtrise d'un État par une nation, ça a été une mutation de l'organisation du territoire pour le capital qui se situe dans la droite ligne juridique, dans la droite ligne économique, dans la droite ligne politique de l'impérialisme européen. Je pense que ça aussi, c'est assez factuel, si on veut. Donc, c'est une adaptation, puis c'est pas un démantèlement de la logique de l'Empire, qui est une logique donc de dépossession par accumulation, pour la nommer autrement, avec des bénéfices pour les populations complices, pour les colons, sur la base de hiérarchies, d'oppression multiple là, qu'on a bien documenté dans les dernières années. Donc, c'est plutôt dans le changement d'usage du maître chez nous au Québec, là, qui est une évolution, je pense, prévisible et explicable aussi. C'est pas d'ailleurs très original, hein, ce qui se passe au Québec, ce serait une crispation identitaire du nationalisme, si on regarde ce qui se passe en Europe puis en Amérique latine. Mais toujours est-il que si on lit dans cette histoire impériale, je pense que la crispation identitaire, elle exprime une réaction à un cycle de dépossession économique qui est inscrit dans la logique du capital global. C'est-à-dire que le modèle national de l'économie, pour toutes sortes de raisons structurelles, il ne fonctionne plus, il est détraqué. Il n'était pas voué à durer de toute façon. C'était une forme de passage négocié, un pacte entre les exploités et les exploitants, dans l'horizon là, d'une soumission qui est acceptée, qui est voulue à la logique du capitalisme. Il y a ça dans Maître chez nous. On embrasse le capitalisme mondial dans sa version qui nous plaît là, de l'État-nation qui se construit une société à son image. Et donc, les Québécois, ils veulent la société d'abondance, ils veulent le luxe, ils veulent les services, ils veulent les revenus tirés du territoire, mais ils ne veulent pas connaître les fondements politiques et juridiques coloniaux sur lesquels repose ce privilège-là. Puis ils ne veulent pas entendre parler des communautés autochtones qui habitent le territoire, puis ils ne veulent pas que leurs habitudes culturelles soient transformées par les nouveaux arrivants qui sont essentiellement issus d'une immigration économique. Donc, ils veulent le beurre puis l'argent du beurre. Ils veulent qu'on parle français au Québec, ce qui implique de diversifier la société québécoise, mais ça aussi, on le refuse parce que ça ne nous renvoie pas à l'identité figée un peu qu'on brandit pour résister à une sorte de dépossession qui est réelle, mais qui, je pense, n'est pas bien nommée. Elle n'est pas bien nommée parce qu'on est dans notre vieux récit du maître chez nous. On veut jouir des avantages du capitalisme mondialisé, mais on veut pas, on refuse les conséquences, puis on accuse les minorités de ces conséquences-là. Mm-hmm. Et donc, l'idée de maîtrise dans ce contexte-là, si elle pouvait apparaître progressiste à une certaine époque, et jusqu'à un certain point, elle l'était, hein, faut pas penser qu'on aurait fait différemment, qu'on aurait pensé mieux à l'époque. Mais aujourd'hui, elle devient carrément réactionnaire, dans le fond.
Mais on voit aussi dans ton ouvrage, notamment, L'œil du maître, que des anthropologues, notamment comme Rémi Savard, avaient vu peut-être juste à l'époque où se produisaient, par exemple, des transformations. On comprend aussi que la croyance en cette identité de maître du territoire est un dispositif donc qui permet la continuation de la colonisation des territoires et de la violence envers les Premières Nations et tous les groupes minoritaires, comme tu l'exprimes très bien. Et donc, comment défaire ce dispositif qui délimite le « nous » d'un « eux » et qui fait du territoire un stock de ressources à piller?
Yes. C'est un gros travail, hein?
C'est une grosse question.
Une grosse job, là. Mais ça se peut, tu sais, puis on peut faire l'effort de nommer ce qu'il y a à faire. C'est des grosses affaires. Je dirais, premièrement, faut revoir de fond en comble là, tous les statuts constitutionnels qui définissent les territoires, qui définissent les usages, puis qui, en conséquence, définissent les relations que ces territoires-là soutiennent. Faut revoir le langage que j'appelle le découpage ontojuridique qui nous permet de coexister dans ce territoire-là. La Constitution canadienne, elle tient le territoire en otage pour son exploitation. Le fondement de l'objectivation du territoire là, pour sa liquéfaction en valeur, c'est le droit canadien. Qui institue des titres juridiques à la fois des titres de possession publique par la couronne puis des titres de possession privée. Et toute la gestion de ce système d'accès, dans le fond, est en même temps un système de définition des usages. Et tant que ça est en place, Il n'y en a pas d'accès au territoire, puis il n'y en a pas de possible transformation des usages, c'est-à-dire de transformation de nos relations. Donc, il y a une réflexion, une recherche, une conversation qu'il faut continuer d'avoir sur comment on fait le découpage des êtres puis des entités, dans ce vécu phénoménologique-là qui est qu'on est des vivants dans ce territoire. Donc, première chose. Donc, là, puis, tu sais, quelque part dans le mouvement pour l'indépendance du Québec, il y a eu une réflexion constitutionnelle, mais pas allée très loin, là. Elle n'a pas été en mesure, justement, de remettre en question les appareils de maîtrise qui étaient dans le cadre juridique. C'était de s'en faire pour nous-mêmes, c'était pas de les démanteler. Donc, le démantèlement de cette prise d'otage constitutionnelle, il faut y réfléchir. Puis ce que ça veut dire de manière plus fondamentale, deuxièmement, ça veut dire qu'il faut s'engager de toutes sortes de façons dans une expérience ou des expériences de reconstruction de ce que ça veut dire l'économie, de ce qui soutient la vie, comment on vit dans ces territoires, selon quelle logique, par quelles autorités, dans quels horizons. Ça implique repenser les découpages juridiques, ça va de pair avec une pensée du vivant, dans le fond, donc qui est éco-économique, quoi. Et pour faire ça, faut créer, nourrir, multiplier les espaces de parole, faut qu'ils soient beaucoup plus inclusifs, faut qu'ils soient locaux, faut qu'il y ait un apprentissage de la démocratie à toutes sortes d'échelles, avec toutes sortes de gens. Puis des espaces qui brouillent les frontières ontologiques. Puis ça prend un effort phénoménal de diplomatie, je pense, entre les collectifs de toutes sortes. C'est ça. Ça serait une mouvance révolutionnaire, hein, qui se définirait en cheminement dans un engagement très concret dans les lieux, qui sont des lieux très difficiles, qui sont grevés de rapports de pouvoir, de rapports de classe, puis qui marchent presque tout au gaz. On est dans une... C'est un paysage difficile, mais c'est ça, comme on dit, c'est ça. C'est du travail à faire qui est du travail de connaissance, d'apprentissage, puis de collectivisation de toutes sortes. Là. Je sais que c'est général, hein, mais...
Tu dis que l'Empire essaie de se faire allier avec certaines populations, où il lui donne une certaine forme de récompense pour sa collaboration avec la dépossession des autres communautés qui sont des communautés plus minoritaires ou les communautés qui sont exploitées. Est-ce que le travail, c'est pas un peu d'essayer de repenser un nous qui, en fait, serait un refus de cette collaboration-là? On sait que le nous constituant, le nous que le maître veut, auquel le maître veut nous faire adhérer, celui qui est maître chez lui, si on veut, il dispose de moyens immenses pour convaincre la population, convaincre le Québec d'adhérer à son projet politique de colonisation. Il nous le fait désirer, il nous fait désirer la participation aux institutions politiques, il nous fait désirer le progrès technologique, les perspectives de carrière, l'accomplissement à travers ces perspectives de carrière, évidemment. Est-ce que tu penses qu'il y a des pistes pour essayer de rendre désirable un autre nous qui serait désolidarisé de ce nous-là que le maître essaie de constituer autour de lui?
Ouais. Ben, je sais pas, tu sais, je sais pas tout à fait pourquoi, mais je serais pas super à l'aise de proposer un nous alternatif, là, tu sais. Puis, j'ai peur que ça fonctionne pas comme ça. Après ça, ce que je veux dire, c'est que le nous mythique de la souche, là, dont on parle jamais, mais au fond, c'est de ça qu'on parle dans le maître chez nous, dans le nationalisme québécois, hier et aujourd'hui. Ce que j'essaie de montrer dans le livre aussi, c'est qu'il n'est pas ce nous-là fantasmé, l'ayant droit colonial que le Québec du maître chez lui a voulu revendiquer. Ça vient d'une frange brouillée qui était déjà très plurielle de l'Empire, puis ça vient d'un bouillon d'exploitation globale. Puis je pense que l'histoire du Québec doit être inscrite dans cette histoire-là pour être en mesure de comprendre sa propre diversité contemporaine. Puis je dirais pas nous des dépossédés. C'est problématique de dire que les Québécois sont dépossédés, même s'ils sont c'est une population issue d'une histoire de dépossession. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut que les collectifs, là, peu importe comment ils se définissent, là, faut inventer aussi du collectif. C'est que les collectifs, quels qu'ils soient, c'est qu'ils puissent trouver d'autres sources d'imaginaire politique pour une implication dans le présent. Qui permettrait d'activer des accointances, des contiguïtés, un maillage, donc dans des histoires, un raconteur de dépossession qui est varié, puis d'explorer, dans le fond, les solidarités possibles. Ma tentation qui est plus éthique, on va dire, c'est de... Moi, ce qui m'attire, ce que je désire, c'est un genre de mouvement de désaffiliation, c'est-à-dire que pourquoi on s'identifierait à ça, le mainstream? Je le dis pas au sens où on renoncerait à assumer la responsabilité de l'histoire coloniale québécoise, au contraire, il s'agit d'en prendre responsabilité, mais dans un rapport de désidentification à l'État, je pense, puis à ces formes-là, dans le concret, dans les gestes très réels dans le territoire qui sont pas... J'essaye de pas cultiver un romantisme là, par rapport au maillage, au travail par le bas, à l'engagement dans une territorialité concrète. En même temps, je crois que on vient de très loin, hein? On part de très bas, on est... La dépossession absolue qu'on en partage dans le capitalisme, c'est celle qu'on n'a pas accès aux moyens de produire la vie. On n'a pas accès au territoire. Et par territoire, il faut entendre les usages, les savoir-faire. On n'est pas capable de se nourrir, on n'est pas capable de se loger. On est dans un dénuement extraordinaire. Et s'il y a quelque chose de désirable, je pense, c'est d'apprendre deux ou trois métiers, c'est d'aller voter aux élections municipales, c'est de ne pas bouder aucun des espaces de parole qui existent, c'est de parler à tout le monde, c'est de chercher des façons de se nourrir, de se loger, qui ne relèvent pas de la dévoration coloniale, ou en tout cas, qui travaillent à rebrousse-poil de ça, en se gardant, en faisant semblant de travailler s'il faut gagner pour gagner sa vie. Il faut être un faussaire quelque part, puis il faut accepter aussi que les expériences de liberté sont transitoires, puis elles sont difficiles. Je dirais, en apprenant à apprendre, pour moi, c'est la connaissance surtout qui est à reconquérir dans le fond. Il faut que ça soit dans un engagement extrêmement concret dans le monde, dans une sorte de proximité, dans le fond. Puis je conçois que c'est séduisant, c'est l'homogène, hein, dans la vieille théorie de Georges Bataille qui nous séduit, qui nous attire. Ça fonctionne, ça produit, ça accumule. Mais je pense que ça serait une erreur de voir cette scène-là comme comportant un dedans puis un dehors. Soit t'es dans la bulle de l'homogène, puis tu jouis, puis tu profites de l'accumulation. Soit tu boudes, puis t'es en dehors parce que tu te bats contre ce monde. Moi, je pense pas que c'est structuré comme ça, le réel. Je pense qu'il y a des interzones puis des articulations entre les espaces partout, puis il faut les opérer. Il faut être trans, là. Il faut vraiment, il faut bidouiller les plateaux de réalité, puis il faut devenir très street smart, là, pour faire ça. C'est très réel, je pense. Mm-hmm. Puis après ça, faut être généreux, faut pas avoir de ressentiment, puis faut donner de ce qu'on a à donner. Ces temps-ci, je vois beaucoup de gens qui se donnent des œuvres d'art, puis des carottes, puis des... cette pratique-là du don, je pense que c'est un revers de... c'est un revers, mais c'est pas un dehors du monde homogène productif. Puis je pense qu'il faut se priver de rien. Je pense que ça, c'est séduisant.
Ça fait beaucoup du... je trouve que ça fait beaucoup du... Ça fait beaucoup de lien avec ce que tu dis quand tu parles de forger des alliances dans une expérimentation du lieu. Puis là, tu dis ici, maintenant, n'importe où. Donc, effectivement, de chercher, comme tu dis, les failles à travers tout ça. D'Aligéro, merci. Puis on va prendre une courte pause pour revenir après ça, continuer cette discussion-là. À tout de suite.
Bienvenue à Annulateur. On est avec d'Aligéro aujourd'hui pour parler, entre autres, de son livre « L'œil du maître » qui est paru aux éditions Mémoire d'Ancrier en 2021. On était sur la question du nous, de la possibilité peut-être de ramener un nous ou bien de se contenter de peut-être de quelque chose de plus bidouillé, comme tu disais, Dali. Mais dans tous les cas, il est essentiel d'expérimenter d'autres rapports au monde, des rapports qui pourraient faire naître des nouvelles formes de relations entre les différentes communautés humaines et non humaines qui cohabitent sur un territoire. Tu évoques, entre autres, à travers les écrits de Georges Sioui, un historien et philosophe Wendat, le passage d'une pensée linéaire, l'héritage d'une civilisation qui repose sur l'expropriation, l'extraction, l'accumulation, à une pensée circulaire qui serait propre à la cosmologie des Premières Nations en Amérique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui implique ces deux dispositions différentes, hein? Ton micro est fermé, Dali.
Oui. J'accroche, tu sais, sur faire naître d'autres relations. On pourrait le dire comme ça. Une espèce d'approche nataliste. J'ai évoqué aussi la pratique du don. Et ça s'articule à une autre conception du temps, peut-être. Puis peut-être ça va permettre d'illustrer cette question que Georges Sioui développe, là, de la civilisation du cercle versus la civilisation de la ligne. Donc, faire naître d'autres civilisations, comme s'il y avait un point de départ, comme s'il y avait un moment révolutionnaire, comme s'il y avait un avant ou un après, dans une autre sorte de pensée, on pourrait... activer une autre sorte de réalité en se disposant justement différemment, à savoir que les autres relations, je dirais qu'on n'a pas à les faire naître, elles existent. Elles existent, mais on ne les active pas, on ne les voit pas, on n'arrive pas à justement à brancher les machines désirantes à travers ces relations-là. Et donc, on a rien à inventer d'une certaine manière, mais il faut l'expérimenter, il faut jouer. Je nous vois comme des enfants dans le monde où en jouant, on découvre des choses finalement, mais on ne les découvre pas, c'est-à-dire on les apprend, on les rencontre, elles nous façonnent. Et ces autres formes de relations-là, c'est de trouver, de créer l'espace, puis le temps, puis d'aller à la rencontre des formes de connaissances qui vont nous permettre de les voir puis de les activer. Après, le problème de cette civilisation du progrès, on va dire, de la linéarité, c'est qu'on est pris dans une forme de culture qui est une monoculture, en fait. C'est-à-dire, notre forme de vie est possible s'il n'y a aucune autre forme de vie qui existe. Elle est totalitaire parce que elle est parfaitement intolérante aux autres formes de vie pour des raisons très simples que c'est l'objet de notre forme de vie c'est le vivant, puis c'est de transformer le vivant en valeur. Donc, c'est vraiment c'est une machine de mort, finalement. De mort lente et souvent spectaculaire et parfois belle, et on est humain là, là-dedans. Mais c'est une machine écocide, dans le fond, qui fait en sorte qu'on est tout le temps en train de détruire les conditions de possibilité d'expression de ces autres relations-là, si on veut. Mais je pense que dans... Puis je peux pas parler, moi, au nom des personnes autochtones puis de ces systèmes de connaissances-là, mais je peux recevoir, par contre, la lecture qu'ils font de notre forme de vie à partir de cette perspective autre. Et je dirais ça, c'est qu'on est en... On est dans un rapport de dépossession profond au monde, qui est la condition de possibilité du monde hyper performant et hyper luxueux et hyper inégal dans lequel, duquel on vit et dans lequel on survit aussi. Hein. Ça nous fait puis ça nous détruit en même temps.
Mm-hmm. Et Georges Sioui et bien d'autres parlent, en évoquant la civilisation occidentale, d'une population humaine qui serait malade, détachée de la Terre, de ses communautés, de ses relations et de ses sens, et qui serait en quelque sorte en quête de guérison. Il semble effectivement de plus en plus clair pour de nombreux groupes occidentaux que le monde qu'on dit, entre guillemets, civilisé, est effectivement profondément malade. Et qui est incapable, en fait, de toute forme de soins. Et tu le disais notamment par le fait que c'est une civilisation qui est écocide. Et donc, face à ce constat d'un monde mortifère, plusieurs décident de le déserter pour, par exemple, se rallier aux luttes territoriales autochtones. On parle, par exemple, de Wet'suwet'en présentement, ou de Land Back Lane aussi en Ontario. Pourrait-on voir dans ces alliances une forme de guérison, par exemple, ou une quête peut-être plus de guérison?
Mmh. Ben, tu sais, il faut faire attention de ne pas généraliser puis simplifier aussi. Je sais pas si tout le monde cherche à se guérir, je sais pas si ça se guérit faire ça. Je suis sûre que c'est des idées qui ont cours, puis c'est à voir qu'est-ce qu'elles produisent, tu sais. Mais ce que je constate, en tout cas, c'est que c'est vrai que pour plein de gens, ça ne nous intéresse plus, cette forme de vie-là. La proposition, puis je veux dire, je pense qu'elle est jugée aussi. Elle est jugée, cette forme de vie-là, comme étant invivable. On n'a pas besoin d'aller dans des franges militantes très obscures, là. Le JX s'époumone... depuis plusieurs décennies à nous expliquer qu'on s'en va carré dans le mur. Et on le sait, je veux dire, c'est documenté, ça ne nous intéresse plus avec raison comme forme d'organisation. Et appelons, je ne sais pas si vous évoquez une sorte de retour au territoire quelque part, ou en tout cas de d'arriver en Amérique, peut-être, qui est intéressante de dire, ben, OK, on est désorienté, nous, on se désaffilie de cette forme de vie-là, puis on est des humains à pied sur Terre, on veut aller vers ce qu'il y a pour comprendre. Puis je pense que l'alliance avec les luttes territoriales autochtones, elle est très nécessaire, en tout cas, à cette révolution d'une manière de penser, et c'était très important, hein, ce qui s'est passé à l'hiver 2020, l'appui là, transcanadien à la mobilisation des chefs traditionnels Wet'suwet'en. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a cliqué dans l'articulation au moins ponctuelle là, entre les luttes environnementales et les luttes territoriales autochtones. Et je pense que la société homogène productive, là, pour reprendre nos termes bataillés de tantôt, elle l'a bien senti aussi. Là, on était en panique dans le mainstream parce qu'elle a manqué de ketchup et de mayonnaise dans les épiceries, parce que les trains étaient bloqués par des gens qui appuyaient les revendications territoriales. Et c'était très explicite. La carte politique, elle était tellement explicite à ce moment-là. C'est les gens qui disaient, voyons, notre mode de vie est en danger. Je pense que cet épisode de mobilisation-là, il a mis le doigt là où ça fait mal. Puis je trouve que les cartes sont de plus en plus sur la table. Puis on revient plutôt à ce nous, à cette identité, à cette forme de vie. C'est pas juste parler français puis avoir notre Hollywood québécois. Puis c'est un mode de vie là. D'accumulation de capital, puis c'est un mode de vie industriel, puis c'est un mode de vie de confort bourgeois. Puis quand va venir le temps de le défendre, on va le défendre. Et je m'éloigne un peu du terme de la guérison, mais en même temps, moi, je parlerai en tout cas d'un espèce de saut épistémologique et politique qu'on a besoin de faire, mais pour le faire, il faut se réorienter. C'est pas vrai qu'on va faire ça assis devant des ordinateurs à se parler. Il faut qu'on s'oriente vraiment dans l'horizontal. Où est-ce qu'on est? Comment ça marche ici? Et effectivement, dans ces alliances-là, puis dans ce désir d'être sur place. Qu'est-ce que c'est sur place? Ben, ça va s'inventer en étant sur place. Je pense que là, on est en train de se refaire des cartes. Et oui, c'est une guérison épistémologique, je pense. C'est un retournement du regard qui n'est pas simple, qui est complexe, qui est engageant, qui est long aussi. Vu de l'extérieur, là, les gens que ça intéresse pas beaucoup se croisent les doigts et disent ouais, mais c'est quoi la solution avec les autochtones? Il n'y en a pas de solution, il n'y en a pas de solution. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu refasses ta carte mentale, politique, historique. Il faut que tu t'éduques à ces choses-là de manière profonde, puis ça va prendre une vingtaine d'années avant que tu sois capable de poser les problèmes politiques autrement. Mais le contact avec ces enjeux-là, avec ces manières de nommer, avec tous les paradoxes aussi qui se trouvent là-dedans, hein, faut pas être angélique ni romantique, ben c'est un sacré apprentissage. Puis on va avoir d'autres limites, d'autres paradoxes, d'autres difficultés puis d'autres ambiguïtés. Mais oui, il faut qu'il y ait une... J'accepte votre retour sur le terme de guérison de Georges Sioui à ce titre-là, d'une guérison de notre capacité de connaître puis d'agir, dans le fond, dans le contact avec ces luttes-là, puis ce qu'elles impliquent, puis comment ça nous repositionne. Et c'est pas un repositionnement puéril ou culpabilisant, comme pensent certains. Au contraire, c'est vraiment... c'est un travail de se resituer et puis de refaire ses gammes puis de réorganiser notre manière de penser qui est plus forte, qui est plus intéressante parce qu'elle est plus réelle aussi. C'est une guérison par rapport à une fiction, tu sais, je veux dire, il y a une romance du Québec qui est devenue, je pense, handicapante pour notre intelligence collective.
Merci Dali, on va devoir arrêter là parce qu'on a justement une chronique qui nous attend sur... le moratoire qui a été déclaré par les différents chefs du CAMEC sur le Nitaskinan. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ton livre avec nous. Ça nous force à nous regarder dans les yeux un peu, puis à apprendre l'état de la situation, à regarder notre histoire aussi sans concession, mais d'une manière qui est très empathique, je trouve, dans ton livre. J'invite tout le monde à le lire, à se le procurer, à le lire. C'est une lecture très, très importante pour refaire nos cartes. Justement, comme tu le dis, puis on va aller vers la chronique L'insurrection de la semaine avec Joe et Paille.
Salut, merci.
De l'eau et de la terre sont appelés à bloquer le pouvoir colonial. Folle, fond, route, rail, partout, maintenant.
Bonjour tout le monde. Alors oui, on souhaitait aujourd'hui vous introduire sur une déclaration du blocage de Saint-Lambert lors du blocus Wet'suwet'en. Parce qu'aujourd'hui, on a reçu un communiqué, en fait, de la Nation Atikamekw, pareil.
Oui, ben la Nation Atikamekw qui déclare un moratoire, là, en fait, contre les industries extractives, là, sur son territoire. Puis c'est donc un retour des Atikamekw dans l'espace public... au sens large, parce qu'on se souvient qu'il y avait un an, il y avait un scandale autour du meurtre de Joyce Echaquan, qui était décédée à l'hôpital de Joliette. Puis il y avait eu tout un... des déclarations des grands médias et des politiciens et politiciennes qui avaient donc annoncé des excuses nationales, puis après silence, une fois de temps en temps, on en reparlait, mais sans plus. Ceci étant, pendant ce temps-là, sur le Nitaskinan, qui est le territoire ancestral de la nation Atikamekw, les coupes forestières continuent à grand déploiement. Et donc, ce qui a mené à certains blocages par le passé, on se souvient du blocage du chantier Capitaine en août de l'année passée, qui avait mené, des manifestants et des manifestantes avaient bloqué pendant une journée un chantier de coupe forestière dans la région de la Naudière, ce qui avait mené des membres de la Nation Atikamekw à demander à l'industrie d'arrêter, puisqu'il y avait été une victoire à l'époque. Et donc là, ils reviennent. Peut-être pour présenter un petit peu la Nation Atikamekw, c'est composé d'un peu plus de 7000 personnes, des gens qui sont regroupés principalement dans les communautés de Manawan, Optisiwan, Wemotashi, et qui occupent le territoire du Nitaskinan depuis des temps immémoriaux. Il y avait d'ailleurs... C'est un territoire qui est à ce jour non cédé et invaincu, et qui avait fait l'objet d'une déclaration de la Nation Atikamekw en 2014.
Oui, en 2014, alors il y avait eu la déclaration de souveraineté sur le Natiskan, dans laquelle, en fait, la Nation Atikamekw expliquait en fait que son... consentement était une exigence pour tout développement, usage et exploitation des ressources situées dans le Nitaskinan, mais que, également que ceux-ci utiliseraient tous les moyens qu'ils jugeront appropriés pour défendre leurs droits et leurs intérêts sur leur terre ancestrale. Et puis c'est un peu, c'est ce qui nous mène en fait un peu au communiqué qu'on a reçu cette semaine, hein, dans lequel le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw exigent un moratoire sur les coupes forestières sur leur terre ancestrale. Et dans le communiqué, on nous cite le chef Paul-Émile Ottawa qui dit « Des fronts de colonisation continuent de s'exercer sur notre autonomie et le politique ne s'est pas engagé à mettre entre les mains des Autochtones les leviers nécessaires à leur bien-être économique. Nous souhaitons une reconfiguration des relations avec les entreprises qui soient durables et structurantes. Nous décrions cette nécessité depuis assez longtemps. »
Ben ouais, c'est extrêmement intéressant. En fait, on voit qu'il y a une ressemblance entre la tactique qui est utilisée ici par les membres de la Nation Atikamekw puis ce qui avait été fait l'an passé par les Anishinaabeg, c'est-à-dire que pour la chasse à l'orignal, les chefs traditionnels de la Nation Anishinaabeg avaient déclaré eux-mêmes un moratoire. Donc, c'est comme une injonction qu'ils faisaient à l'État québécois et l'État canadien que ça soit fini. Et ils l'avaient rendu possible. Donc, c'est une déclaration en acte parce qu'ils avaient aussi bloqué la chasse à l'orignal. Donc, c'est un moratoire qui était effectif dès leur propre déclaration, ce qui est une tactique intéressante que peut-être la Nation Atikamekw va utiliser dans les prochains mois.
Moratoire qu'ils ont réussi à obtenir par la suite, je pense, officiellement du gouvernement québécois hein, pour les Anishinaabeg. Hein?
Oui, exactement. Pour quelques années, il y a un moratoire. On verra où ça va mener tout le monde. Mais c'est sûr qu'eux, je pense, j'ai l'impression qu'ils vont recommencer à bloquer si jamais ce moratoire-là n'est pas respecté.
Oui, évidemment. Et au niveau des blocages, on voit que c'est une pratique qui est de plus en plus utilisée hein, par les mouvements. Mais par les communautés autochtones pour défendre leurs droits sur leurs terres ancestrales.
Ben oui, c'est sûr, c'est une tactique qui est assez vieille, mais qui s'accentue. Ce qui est sûr, c'est que l'extraction des ressources repose sur la circulation des marchandises. Donc, en territoire autochtone, c'est des coupes, c'est des mines, c'est de la chasse. Donc, c'est des gens qui doivent rentrer, sortir. C'est la circulation des flux de marchandises et de voitures, de passants, de touristes. Ce qui fait que quand tu bloques les flux, quand tu occupes la rue, la route, le chemin, ben ça bloque de facto la possibilité de l'industrie de fonctionner. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on voit que cette tactique-là de bloquer pour saper comme les fondements de la logique de l'extractivisme est plus complexe que ça dans le cas des Autochtones. C'est-à-dire qu'il y a aussi une réaffirmation d'une part de la souveraineté autochtone, parce qu'ils disent, en fait, c'est nous qui décident, puis nous, on bloque quand on veut. Mais c'est aussi une réinvention de la vie de la communauté sur le territoire même. C'est des gens qui vivent en réserve puis qui, là, tout d'un coup, vont s'installer en bord de route ou sur la route ou dans une forêt et réinventent à partir de là, retrouvent ou réutilisent certaines pratiques, certains usages de ce lieu-là. Donc, c'est protéiforme là, comme sens qui est donné à ces blocages-là.
Oui, merci de l'explication. Ici, de ce que je comprenais, si on veut en lire plus, il y a quelques textes intéressants à ce sujet sur contrepoint.media.
Oui, ben, il y a deux textes là, qu'on pourrait suggérer cette semaine, des comités de défense et de décolonisation des territoires. Donc, d'une part, un texte qui s'appelle Les Atikamekw, qui fait un résumé un peu de ce qu'on a pu parler, donc une présentation de cette nation-là et des actions qui ont pu avoir lieu. Et aussi un texte qui est un peu plus vieux, mais qui date de l'automne 2019, qui s'appelle Blocage sur la circulation, le capital, l'extraction et l'expansion coloniale. Donc, deux excellentes lectures pour cette semaine.
On va mettre évidemment les liens en pièce jointe avec la diffusion vocale de l'émission. Et puis nous, on vous renvoie à Simon, TP et Dali. Alors, bonne fin de journée tout le monde et à la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Alors voilà, c'était la chronique insurrectionnelle de la semaine et c'est ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Donc merci Joe et Pai pour cette belle chronique. Merci énormément à Dali Giroux d'être venu nous partager ses réflexions sur l'œil du maître que vous pouvez lire aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci TP, merci Michael. On vous souhaite une très belle journée et vous pouvez écouter l'émission sur le www.contrepoint.media ou via le anchor.fm. Bonne fin de journée.
De Tokyo à New York.